famille. Marcel Landowski est évoqué par sa fille, la comédienne et chanteuse Manon Landowski.
Un des termes qui caractériserait le plus mon père, je pense que c'est l'espérance. Avec ce que contient l'espérance, c'est-à-dire à partir du moment où il y a un atome de quoi prolonger la vie, il y a donc de quoi se projeter. Et je pense que pour lui, ce qui constituait l'existence, c'était le projet et le faire exister. Donc à la fois le rêve et l'incarnation du rêve. Donc il avait, je crois, deux qualités exceptionnelles qui étaient à la fois le saltimbanque et le géomètre, enfin quelqu'un qui s'adapte au réel de façon magnifique. Et en même temps, dans cette espérance, quelque chose qui n'aboutit jamais. Et en cela, une espèce d'amour de l'absolu qui est toujours un peu déçu, puisque l'absolu n'existe pas. Et il était ces deux choses, je crois, dans ce terme d'espérance.
Marcel Landowski est compositeur. Il est né en 1915 et mort en 1999. Fils du sculpteur d'origine polonaise Paul Landowski et par sa mère, arrière-petit-fils du compositeur Henri Vieuxtemps, il montre, très jeune, d'évidentes dispositions pour la musique et prend des leçons de piano avec Marguerite Long. Il entre au Conservatoire de Paris en 1935, où il compose ses premières pièces et travaille la direction d'orchestre avec Pierre Monteux. De 1962 à 1965, il est directeur de la musique de la Comédie-Française. En 1966, il est nommé par André Malraux, directeur de la musique, de l'art lyrique et de la danse au ministère des Affaires culturelles, fonction qu'il exercera jusqu'en 1975. On lui doit notamment la définition d'un plan décennal pour la musique, mais aussi la création de l'Orchestre de Paris en 1967, dont la direction est confiée à Charles Munch, et puis la modernisation de l'enseignement dans les conservatoires, et la mise en place des classes à horaires aménagées pour la danse et pour la musique. Marcel Landowski a été secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts, où il est entré en 1975. Il est ensuite chancelier de l'Institut de France.
Un père infiniment bien aimé et bien aimant. Évidemment, on interroge des moments ponctuels comme ça qui seraient restés, donc il y en a bien sûr, mais je dirais avant tout que c'est une espèce de tissu avec mille moments répétés. C'est pas des fractions de souvenirs isolés qui auraient marqué dans une absence, non, c'était une présence formidable depuis l'enfance jusqu'à ma vie d'artiste à moi. Et donc cet amour filial immense et réciproque et aussi une empreinte musicale énorme. Parce qu'on est un peu, j'ose dire ça prétentieusement, des fans réciproques puisque j'écris des chansons et que lui, bien entendu, est le compositeur qu'on connaît. Et voilà, j'aime beaucoup, beaucoup sa musique et j'en écoute souvent. Ça s'est pas passé pareil sur toutes les périodes de la vie. Je dirais que moi, j'ai eu une vie d'abord de danseuse, puisque j'étais à l'opéra, c'est ma première formation. Mon père a composé pas mal de musiques de ballet, qui ont été chorégraphiées notamment par Roland Petit, une œuvre qui s'appelait le Fantôme de l'opéra. Et alors, j'ai de grands souvenirs, parce que j'étais au CNSM, puisque quand j'ai voulu me présenter à l'opéra, j'avais 13 ans, et qu'une loi avait été signée par le directeur de la musique plusieurs années avant, qui stipulait qu'on pouvait se présenter à l'opéra qu'entre 8 et 12 ans. Loi signée par Marcel Landowski. Et donc, quand j'ai voulu me présenter à l'opéra, j'avais 8 mois de trop. Donc, je suis rentrée, parce que mes parents, qui étaient tous les deux artistes et de grand niveau, m'avaient dit soit l'opéra ou le Conservatoire national supérieur, sinon pas de danse. Donc, je me suis présentée au Conservatoire de Paris. Je suis rentrée au Conservatoire de Paris. Et les élèves du conservatoire avaient, comme les élèves de l'école de danse de l'opéra, une petite loge au dernier étage de l'opéra Garnier, sur les côtés. Donc, il y avait la petite loge des petits rats et la petite loge des élèves du conservatoire. Et on avait le droit de venir voir tous les spectacles qu'on voulait gratuitement. Et donc, il y avait eu 14 représentations du Fantôme de l'opéra, musique de Marcel Landowski, chorégraphie de Roland Petit, avec Patrick Dupont, Dominique Calfouni. Et j'avais été voir les 14 représentations du Fantôme, ballet à l'issue duquel Patrick Dupont avait été nommé étoile dans le rôle du jeune homme. Et il se trouve que, quelques 20 ans plus tard, j'ai été la partenaire de Patrick Dupont à l'Espace Cardin dans un spectacle qui s'appelait L'air de Paris, concocté par Jacques Pessis autour de chansons de Paris. Donc c'était un très gros clin d'œil de la vie, quoi, de me retrouver sa partenaire, alors que quand j'avais 13 ans et demi, j'avais été rêver sur ce ballet qui était une pure merveille. Il ne m'a pas influencée intentionnellement parce qu'il n'avait pas de projet d'artiste pour moi, je crois. Pour aucun de ses enfants d'ailleurs. Les artistes ayant des vies difficiles, ils voulaient plutôt qu'on fasse des études, tout ça. Je me souviens quand j'ai annoncé que je voulais faire de la danse, ma mère avait dit « Ah ben nous voilà dans de beaux draps ». Et puis après, il a suivi ma vie de danseuse avec beaucoup de tendresse, bien que je crois que la danse pour lui n'était pas un art... je sais pas. Il a composé beaucoup pour le ballet, mais il avait un rapport au geste qui était un rapport d'infériorité avec le verbe. C'est-à-dire que pour lui, je me souviens quand j'ai eu mon prix au Concerto de Paris et que je suis rentrée à l'opéra, il m'a dit « Bon, enfin maintenant tu danses très bien, tu vas pas faire de la danse, tu as que de la danse toute ta vie, tu devrais faire du théâtre. » Et pour moi, la poésie de ce que peuvent dire les images scéniques allait au-delà pour moi du mot, qui restait une chose plus rationnelle, plus consciente, alors que le geste évoque souvent des choses de l'inconscient qui sont indicibles. Donc on n'avait pas exactement le même rapport à ça. Voilà, mais enfin, il a soutenu à partir du moment où il sentait que pour moi, ma vie, c'était la scène. Il était tout à fait pour et avec et me soutenant. Et puis j'ai quitté l'opéra de façon très brutale. J'ai repris des études et là, en cagne, je me suis mise à écrire des chansons. Et là, il était beaucoup plus sceptique, en me disant, enfin, la chanson, bon. Même si Trenet était rentré à l'Institut, grâce à lui, contre l'avis de beaucoup de compositeurs de musique savante qui trouvaient que c'était vraiment un blasphème abominable d'avoir un compositeur de chansonnette. Bon, je pense qu'il y avait là-dedans un mélange de complexe, de supériorité et peut-être aussi d'infériorité, parce que, bon, ce sont quand même des airs qui ont fait le tour du monde, ce qui n'est pas le cas de toutes les musiques dites savantes. Et je pense que c'est une grande vertu d'aller toucher les cœurs. Et donc, quand j'ai commencé à écrire des chansons, voilà, il était plus lointain. Et j'ai un souvenir, quand j'ai fait mon premier tour de chant au théâtre du Tourtour, donc c'était en 90, il est venu à la répétition générale, donc j'étais seule en scène pendant 1h20. Et à l'issue de cette répétition, je me souviens, il m'a pris dans ses bras et il m'a dit « Mais c'est ça, c'est ta vie ». Et à partir de là... une relation de partage autour des chansons et de l'écriture et s'est nouée de façon encore beaucoup plus étroite que pendant ma vie de danseuse. On se donnait des rendez-vous, des petits déjeuners dans le coin, là, au petit café à côté, à l'angle, dans le coin de Saint-Germain, où on parlait beaucoup. Ouais, ça, c'était formidable. Il était vraiment très amoureux à partir de là. Et puis après, il se trouve que la danse, puis j'avais fait un peu de théâtre aussi, m'a servi. Et un jour, un metteur en scène, lors d'un tour de chant, est venu me chercher pour faire un rôle dans un spectacle de René de Obaldia qui s'appelait Les Innocentines, qui était une espèce de fantaisie autour de l'enfance, jouée par 4 adultes, en quatuor musical, avec des musiques de Gérard Calvi. Et ça a été ma mise de pied à l'étrier de ma vie d'interprète dans le théâtre musical et la comédie musicale. Et il était très, peut-être moins fervent que dans ma vie d'auteur-compositeur-interprète, parce que je pense que la valeur de l'écriture et de la création était très en haut de son échelle. Donc il était très avec moi pour ça, mais aussi en tant qu'interprète dans le spectacle musical. Je crois que ça l'intéressait beaucoup. Ah, il venait me voir tout le temps. Même quand j'ai fait des créations à Lyon ou ailleurs, il venait avec ma mère. Thank you. l'Académie des Beaux-Arts, comme pour toutes les choses, entre guillemets, officielles, il avait un grand respect et beaucoup de fierté d'en être et en même temps un petit sourire amusé sur le fait que ces choses officielles, c'est à la fois grave et pas sérieux au regard de l'ambition artistique dans son contenu. C'est-à-dire, je pense qu'il n'y avait rien de plus important pour lui que l'écriture. Et c'était beaucoup plus important d'arriver à faire jouer un opéra ou que d'être chancelier de l'Institut. Enfin, non pas que c'était dérisoire, pas du tout, mais il gardait un humour là-dessus et sur le côté, qu'il ne fallait pas se prendre au sérieux, quoi. Et j'ai un souvenir dans l'hémicycle de l'Institut comme ça, où il était un homme pas grand de taille. Et finalement, après avoir été membre de l'Académie des Beaux-Arts, il est devenu chancelier de l'Institut. Donc, le personnage le plus important, entre guillemets. Et alors, je me souviens que le chancelier était, lors des séances, notamment la séance annuelle de la réunion des cinq académies. Alors, il avait fait remettre le rituel du tambour, que moi, j'adorais. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, où on voit descendre. Ça n'existait plus, je ne sais plus depuis quelle époque, mais il avait réinstitué cette chose-là, qui, moi, me touchait beaucoup. Je trouve que c'est un moment où, quand on voit descendre ces personnages déjà historiques de leur vivant, je trouve qu'on est saisi par une chose étrange. Et donc, il était toujours assis au milieu, avec des gens souvent beaucoup plus grands autour de lui, tout en étant... Et je me souviens qu'en étant assise là, en assistant, souvent, il me faisait des petits clins d'œil. C'était genre... c'est quand même drôle d'être là, sous cette coupole, avec toute cette histoire qui précède, et d'être là comme ça. Et il y avait un petit sourire de complicité, de joie et d'amusement. Je me souviens aussi d'un coup de fil sur le pont des Arts. Et il me disait, je suis en face de l'Institut quand je pense que je suis chancelier de cet endroit. Et voilà, et on riait. C'est un legs important pour moi, cette capacité d'humour sur soi, alors qu'on est finalement parmi les personnages appelés les grands de ce monde, entre guillemets, enfin, toute relativité. Mais c'est vrai que le chancelier de l'Institut fait partie de la hiérarchie des gens de la haute fonction. Et d'ailleurs, il avait été reçu, pour avoir remis un certain nombre de fois, par Mitterrand, car c'était un rendez-vous obligé que le chancelier de l'Institut de France aille rendre visite au président de la République. Et je crois qu'à cette occasion, il avait obtenu de pouvoir faire, après que François Mitterrand ait fait dorer certaines parties de monuments de Paris, dont le Grand Palais, les Invalides, de faire dorer la coupole, grâce à un rendez-vous à l'époque de sa chancellerie, qu'il avait obtenu ça. Et il en était très content, parce qu'il s'était dit, au moins, si j'ai ce rendez-vous, que ce soit utile. Dans les fonctions les plus importantes qu'il ait remplies, il y a, je pense, la fonction de directeur de la musique et de la danse en France. Il a été nommé par Malraux dans les années 60. Il était le premier directeur de la musique en France depuis Lully, la fonction n'ayant plus été réitérée. Et c'est Malraux qui, à l'époque, en tant que ministre de la Culture, était le premier ministre à la droite du président de la République. C'est dire, comme la fonction s'est dévaluée depuis, avait un très grand projet de développement de la vie politique musicale en France. Et c'est lors de toute cette période qu'il a pu faire les orchestres de région, de très grands festivals, des grands orchestres, l'Orchestre de Paris. Il a sauvé l'opéra qui devait être démoli, qui devait devenir une piscine. Et d'ailleurs, à cette époque, l'orchestre de l'opéra était un orchestre de fonctionnaires. Et mon père a, à ce moment-là, fait de nouveau un concours, en fait, pour refaire l'orchestre. Et il s'est attiré beaucoup de foudre de syndicats et de musiciens et des menaces de mort le concernant, jusqu'à des menaces d'enlèvement de moi. Je crois que j'avais 4 ans, j'étais à l'école maternelle, et on m'a envoyé à l'époque, parce que ma mère a gardé la lettre de menace d'enlèvement me concernant, qui est maintenant un peu jaunie avec les années, et il m'a envoyé en Suisse avec ma mère quelques semaines, à un moment où c'était vraiment très très chaud, où il y avait un garde du corps qui me suivait à l'école. Je ne me suis rendu compte de rien du tout, mais des années plus tard, j'ai écrit une chanson sur le divorce, alors que mes parents n'ont jamais divorcé, qui se passait à Montana en Suisse, et on s'est dit que peut-être de cette époque-là où mes parents donc ont été séparés, puisqu'on m'a envoyé avec ma mère à l'étranger, j'avais dû garder une chose dans l'inconscient comme ça, qui avait ressurgi dans une chanson et qui datait de cette époque. Bref, tout ça pour dire, c'est rigolo, c'est une anecdote, que je pense qu'à cette époque-là, il a vraiment métamorphosé la vie politique musicale française en faisant les orchestres de région, l'orchestre de Paris, Sauvé Garnier, fait aussi toute cette grande réforme des classes musicales dans les lycées qui ont permis aux jeunes professionnels de la musique de pouvoir continuer leurs études, parce que c'est vrai que sinon on s'arrêtait dans le primaire, puis après on faisait du piano 8 heures par jour et il n'y avait plus du tout d'équilibre des connaissances et de la personne. Donc ça a été aussi très important. J'en oublie, il a fait aussi, à cette époque-là, une caisse de la musique qui ensuite a été divisée avec la DAMI, la SPEDIDAM, le FSEM, tout ça. Mais tout ça venait de ce grand plan de la musique de l'époque qu'il a porté pendant 10 ans, qui a été une période où je l'ai moins vu, parce qu'il sortait beaucoup avec ma mère. Voilà. Puis après, il a aussi fait racheter le Châtelet par la ville de Paris quand il a été directeur des affaires culturelles de la ville de Paris. Donc ça a aussi compté beaucoup. Et puis aussi, évidemment, la chancellerie ici et d'avoir été membre des Beaux-Arts après son père. Dans les œuvres que je préfère de lui, ce sont ses œuvres symphoniques. Alors j'aime infiniment sa première symphonie, la symphonie Jean de la Peur, la deuxième symphonie, le deuxième mouvement. J'aime énormément ses seconds mouvements d'œuvres symphoniques qui sont souvent sa secrétaire qui l'a suivi depuis la direction de la musique jusqu'à ici, l'Institut de France. Jacqueline Collin lui disait « Mais vous qui êtes tellement pétillant dans la vie, tellement drôle, tellement... épris de l'existence, pourquoi vous faites une musique comme ça, très inquiétée, hein ? C'est pas une musique mélancolique, c'est une musique questionnante, je trouve, et mineure souvent, hein, puisqu'on oppose le mode majeur au mode mineur, qui est plus un mode triste. Et c'est vrai que ces seconds mouvements sont très dans cette couleur-là, et moi je fais partie de ces gens pour qui la musique triste est beaucoup plus bienfaitrice que la musique gaie qui me fout souvent le cafard. Et... voilà, donc je me reconnais énormément dans cette musique-là. J'aime aussi beaucoup certains de ses opéras, notamment Montségur, où il y a vraiment des choses merveilleuses, ou Les Adieux, qui est une de ses premières œuvres d'opéra, opératique. Voilà, et puis il y a aussi quelques œuvres plus courtes, comme L'Horloge, qui est vraiment pour moi un petit chef-d'œuvre, ainsi que son dernier quatuor, qui s'appelle Le Quatuor de l'Interrogation, qui est une œuvre qui doit faire une petite demi-heure, voilà, qui est vraiment... d'une, je sais pas, inspirée d'un bout à l'autre, très pure, très épure même.